La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Difior et l'équipe technique composée ce soir de Nadège Antonini, Stéphane Démon, Romain Lenoir et Bruno Mourland. La réalisation toujours signée Daniel Finot. Autour de cette table ce soir, au Bel Air, Lucille Como, Florence Colombani et Antoine Guillot pour parler ensemble des quatre sœurs. De Claude Lanzmann, de La Douleur d'Emmanuel Finkiel et de Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance de Martin McDonagh. Grégoire Difior est également avec nous pour surveiller vos commentaires sur Facebook ou sur Twitter. Et puis il y aura bien sûr des cadeaux à gagner en fin d'émission grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle Moi Malvolio de Tim Krush, mercredi 31 janvier, c'est à 20h30 au Théâtre de Nice, à l'occasion du festival Shake Nice. Cette dispute consacrée ce soir au cinéma avec quatre films de Claude Lanzmann consacrés à quatre femmes rencontrées lorsque le cinéaste préparait Shoah, le film qu'il finalisera en 1985, qui dure lui-même 9 heures. Mais Lanzmann avait filmé en tout 200 heures d'entretien. Plusieurs autres films sont nés de cette matière. Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures. Le rapport Karski, Le dernier des injustes. Et donc aujourd'hui, c'est quatre sœurs. Série de quatre films qui donne donc plus de place aux femmes dans le travail de Lanzmann, elle qui était très peu présente dans Shoah et dans les autres films. Deux de ces films ont été diffusés sur Arte mardi dernier, les deux autres le seront mardi prochain et puis bien sûr il y aura une édition en DVD.
Afterwards, I will tell you a very hard story. What happened to me? I told you my father was a very clever and intelligent person, and he's every time he didn't go to high schools or to colleges, but he was very practical, logical thinking man. One day a cart reached me in Terezin. I was walking on the street. A gendarme, a Czech, came to me.
A Czech gendarme.
And gave it to me so that nobody could see it, because it was strictly forbidden. Even he could sit in jail if somebody should have seen him to reach me over something, because it was for him strictly forbidden to get in touch with prisoners. Until today, I don't know how he has known that the card belonged to me. I no idea.
Voilà, c'est l'une des quatre sœurs, c'est Ruth Elias, qui elle parle anglais dans ces quatre films qu'aujourd'hui Claude Lanzmann a réalisé, issus de ces longues heures d'entretien. De la fin des années 70, du début des années 80. On peut quand même dire, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le cinéma de Claude Lanzmann, pardon, Antoine Guillot, formellement, à quoi ça ressemble déjà, ces quatre sœurs ?
Ah ben, ça ressemble à des gens qu'on filme et qui parlent. Alors, on pourrait se dire, ce n'est qu'un témoignage, ce qui serait déjà énorme. C'est-à-dire qu'il est très difficile de parler de ces films sans avoir l'émotion qui remonte, l'émotion intense qu'on ressent en les écoutant, en les regardant, et puis et c'est la force du cinéma de Lanzmann, en voyant des images fantômes, insoutenables, atroces, qui sont celles qu'elle convoque en parlant. Alors, ça pourrait avoir l'air simple, en fait c'est très compliqué, parce que Lanzmann ne les filme pas n'importe où, il les filme dans des endroits choisi. Alors ça peut être en Israël pour Ruth Elias, qui va chez elle avec une scène qui est déjà terrifiante au début parce qu'elle est avec un berger allemand Et évidemment, voilà, ça crée des images. À un moment, d'ailleurs, il va falloir, parce que le chien risque, est-ce qu'il est une chienne d'ailleurs, risque,
très présent au son,
hein. risque de faire du bruit, on va lui dire, bon, maintenant, on va la détacher pour qu'elle s'éloigne. Mais elle est toujours là, elle reste. Et évidemment, voilà, on sait l'usage que les nazis ont fait des bergers allemands dans les camps. Et c'est déjà, voilà, c'est, tout d'un coup, ça fait cinéma. Quand il va filmer Ada Lichtman dans sa maison, à côté de son mari, qu'elle a rencontré... à Sobibor, chose incroyable, qui lui n'arrive pas à parler, mais qui l'écoute, et dont on sent que chacune de ses paroles racontant tout ce qui lui est arrivé résonne en lui, parce que lui, il a des images qu'il n'imagine pas, lui, qu'il revoit, avec ses poupées, et il va être question de poupées de manière terrifiante aussi dans ce film. Tout fait image, c'est-à-dire qu'elle est avec ses poupées à la fois que tout en parlant elle raccommode, et on se dit qu'est-ce qu'elle peut raccommoder comme histoire avec un petit et avec un grand H, qu'est-ce que ça évoque évidemment l'empilement des corps dans les camps nazis tels qu'on les a vus. Et voilà, et à chaque fois ça fait image. Cette femme qu'il va filmer au bord du canal de Panama parce qu'elle y habite. Maintenant, avec un paquebot qui va passer derrière, c'est-à-dire qu'on a une ouverture énorme pour raconter un univers concentrationnaire. Ça provoque des petits éléments de cinéma, mais qui sont extrêmement, extrêmement puissants et qui fait qu'on est au-delà, là encore, du témoignage qui, déjà en soi, est extrêmement fort. C'est le génie du cinéma de Claude Lanzmann qui touche à quelque chose qui est très discret et qui arrive à produire beaucoup plus de cinéma que chez beaucoup d'autres.
Et puis il y a Lucille Comeau, la présence de Claude Lanzmann, ce qui n'est pas rien non plus, parce que il y a une qualité d'intervieweur, enfin il y a une présence très particulière, des techniques très particulières. Alors on le voit d'ailleurs assez régulièrement, c'est pas seulement l'utilité des plans de coupe, hein, je pense que c'est sa présence, des gens lui parlent à lui, parce que c'est lui qui sait ce qu'il... On voit très bien d'ailleurs au tout début avec Rousselias quand elle parle d'un camp où ils ont dû être envoyés, il cite le nom, elle dit « Ah ben vous connaissez ça, vous êtes bien renseigné ». Donc du coup, évidemment, la parole se fait plus simple, plus facile, avec beaucoup de guillemets. Lucille Comeau.
Oui, il y a quelque chose de la maïeutique dans sa manière d'aborder les femmes. Ce qui est intéressant aussi en voyant ces quatre documentaires à la suite, c'est qu'on se rend compte qu'il s'adapte évidemment à ses interlocuteurs et que par exemple, entre les deux premières, il n'a pas du tout la même attitude dans le premier cas. C'est d'ailleurs très troublant, c'est une femme rousse qui route, qui a une facilité, on l'entend pas tellement parce qu'elle a une petite difficulté en anglais qui est relativement fausse, parce qu'en fait elle se débrouille extrêmement bien et qu'elle a une capacité à construire son récit qui est troublante parce qu'on se rend compte que c'est sans doute un des récits les plus insoutenables des quatre, qu'on est pris dans une curiosité qui nous met forcément très très mal à l'aise, une curiosité qui est pas du voyeurisme, parce qu'en effet il n'y a pas d'image, mais bon,
mais elle raconte
image,
très bien,
elle raconte
ça,
très bien avec
dire.
Des effets de suspense, oui. Même voilà, elle raconte le début, sa première arrivée dans un camp, on les met toutes nues, elle arrive dans la douche, les douches s'ouvrent et c'est pas du gaz, c'est de l'eau. Enfin, elle raconte ça presque comme ça, comme quelque chose de, comme un vrai récit. Pour le coup, là, ça fait cinéma aussi parce que
elle le met
dans cet état-là.
Elle veut pas que Lanzmann perturbe son récit. Il y a
mais
il était comment était Mengele, parce qu'il y a le dit la première fois qu'il l'a vu. Je vais y venir plus tard parce qu'il est important qu'elle le rapporte, qu'elle le raconte plus tard.
Donc du coup, c'est vrai que Lanzmann est un relais de ce point de vue-là, qui est à la fois un relais nécessaire et en même temps, ça m'a fait un petit peu le même effet quand j'ai vu Shoah. Un peu agaçant dans la mesure où il nous renvoie forcément à cette position de curiosité qui est une position extrêmement complexe puisque de toute façon à la fois ce qui est dit est insupportable et en même temps la posture dans laquelle ça nous met l'écoutant est insupportable, lui forcément est le relais et moi c'est vraiment un personnage, enfin une posture qui m'est profondément antipathique, j'arrive pas à passer ce sentiment là mais je pense qu'il est tout à fait nécessaire pour avoir accès à ce type de paroles là. Dans le second documentaire, il est très différent. On sent que la parole est plus difficile pour cette deuxième femme, qu'en effet, comme le disait Antoine Guillot, il y a son mari à côté qui fait aussi relais, parce qu'il est dans une forme de stupeur,
de silence,
qui en même temps est une stupeur informée, donc c'est terrible. Et donc du coup, là, il est plus doux, enfin, il y a une douceur qui se met en œuvre, qui n'est pas du tout le cas dans les autres. Dans les deux derniers, bon, on va développer, mais les deux, le troisième et le quatrième, sont un petit peu différents puisque il s'agit de femmes qui sont sorties parce qu'elles étaient privilégiées d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que là, c'est plus des histoires de ghetto plus que de camp. Et la première s'en est sortie parce qu'elle faisait partie de la police du Judenrat, qui était cette espèce de gouvernement fantoche mis en place par les Allemands dans les ghettos, notamment en Pologne, qui veillait et qui avait créé des milices pour veiller au calme et à la sécurité, entre guillemets, dans les ghettos. Donc elle s'en est... On sent que c'était quelqu'un d'éduqué, qui était dans une bonne famille à ce moment-là, donc elle s'en est sortie pour ça. La quatrième, encore un autre cas de figure, se trouve dans ces fameux mille et quelques juifs qui ont été sauvés par Strecker, qui a négocié avec Eichmann en 44 pour sauver certains juifs dans, un peu dans une optique de projet sioniste, de faire une arche de Noé pour en sauver quelques-uns. Donc du coup, le statut est très différent parce que là, Lanzmann est forcément dans une posture un peu, enfin pas d'accusation, mais on sent que la pente pourrait être justement celle-là. Il se retient, enfin il se retient pas, mais il reste un petit peu en haut de cette pente-là. Et la question de leur culpabilité fait que son statut à lui est forcément très différent.
Oui, et puis ça résonne autrement après qu'on ait vu le dernier des Injustes, qui évidemment se confrontait très directement à cette question. La Florence Colombani, qu'on n'a pas encore entendue sur les quatre sœurs, les quatre films de Claude Lanzmann.
Oui, je trouve que Lucille Comeau soulevait une question très intéressante, qui est celle de la posture de Claude Lanzmann dans ses films. Il me semble aussi que l'essentiel même de son rôle, c'est d'être l'historien. C'est-à-dire qu'il est là comme quelqu'un qui a enquêté sur le sujet, qui a accumulé un savoir colossal. Il n'est pas un moment où ces femmes ne citent un élément précis de ce qui s'est passé dans leur expérience, où il n'est pas capable de resituer, de dater au mois près, de donner le nombre de victimes, de tels convois, etc. C'est très frappant. Et je pense que ces femmes ne confieraient pas leur parole à quelqu'un qui n'en saurait pas autant. Et surtout, elle soulève toute la question de la parole après-guerre. C'est, notamment les deux premières, Ruth et Ada, disent que personne ne les a écoutées, personne ne voulait les entendre. Et on comprend bien que ce moment où elle raconte, souvent d'une traite, c'est pas le cas de toutes, mais la plupart, c'est comme un plan séquence. Elle parle dans un long monologue pour raconter une histoire qui est inimaginable de souffrance et de profondeur dans la souffrance, ça n'adviendrait pas si ce n'était pas avec Claude Lanzmann à ce moment-là. Donc, je pense qu'on a aussi, comme spectateur, le sentiment que ces témoignages auraient pu être perdus et que sans doute beaucoup d'autres ont été perdus, n'ont pas été recueillis comme ça. Et, donc, il y a quelque chose d'essentiel à voir ces films. Enfin, je pense qu'on les termine en voulant dire aux gens qu'on connaît, voyez-les, parce que c'est infiniment précieux. Ce que Claude Lanzmann a fait là.
Des douloureux à regarder, Lucille Comeau. On en a beaucoup parlé ces derniers jours au bureau ensemble. Hein, mais...
Moi, j'avais pas vu Shoah en plus, donc du coup, j'ai regardé aussi, enfin pas tout, mais une grande partie de Shoah. Donc, et là, je trouve que particulièrement, alors ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le lien entre ces, enfin si on l'a évoqué, mais le lien entre ces quatre films, ce sont des femmes. Donc du coup, sont abordées des questions propres à la condition féminine dans les camps et dans les ghettos.
Il me semble, vous qui l'avez revu donc presque récemment, peu de femmes dans Shoah.
Oui, mais aussi parce qu'elles ont moins survécu. Enfin, par ailleurs, il y a quelque chose de très pragmatique, c'est que.
Oui, mais n'empêche qu'il avait notamment ces quatre-là. Je crois qu'il y a Ruth qui passe par là à un moment donné, mais de façon très
rapide. Il y en a deux qui apparaissent. Ruth Elias y apparaît, et il me semble que Paula Biren y est aussi, mais pour apporter un petit moment. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas être dans Shoah, et on se réjouit que Lanzmann ait vécu assez longtemps pour pouvoir sortir ces films, parce qu'il peut les sortir maintenant. Pour plusieurs raisons, ça aurait été inaudible à une époque. D'abord, notamment sur les deux derniers. La question des Juifs qui ont survécu parce que, comme les en avait accusé Hannah Arendt, ils avaient collaboré à la machine de mort, était inaudible. À ce moment-là, il a fallu effectivement le film sur le conseil juif de Térézine pour qu'on puisse commencer à réfléchir et à se dire effectivement, on peut, quand on est des années après, quand on est à l'abri de ça, se dire ah bah oui, mais quand même, ils auraient mieux fait de se suicider. Ce qui est quelque chose qui est terrible à dire parce que c'est purement abstrait, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire en condition de survie. Et effectivement, on fait des choses dont on n'est pas fier et dont ces personnes ne sont pas fières, et interrogent sans arrêt cette culpabilité d'avoir survécu et d'avoir essayé de comprendre comment ils ont été amenés à ça. Ensuite, dans Shoah, Lanzmann voulait ne voulait pas parler de la survie, c'est-à-dire il voulait pas faire un feel-good movie sur regardez c'est formidable, il y en a qui s'en sont sortis.
Il voulait expliquer.
Il voulait expliquer et lui il voulait comprendre et montrer la mort.
Ouais, ouais.
Et donc il s'est intéressé aux gens qui étaient les plus proches des lieux de mort et les femmes n'étaient pas les plus proches des lieux de mort. Les femmes n'étaient pas dans les Under Commando. Les femmes qui étaient les plus proches des lieux de mort allaient directement à la mort et le cas de Ruth est un cas exceptionnel puisque c'est quelqu'un qui a été à Auschwitz, qui a réussi à sortir d'Auschwitz, qui est retourné, qui a accouché à Auschwitz. Qui raconte quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire qui ne représente rien de ce qu'était la réalité générale de la Shoah, et c'est ça que voulait montrer Claude Lanzmann. Et en plus, les histoires sont tellement extraordinaires qu'elles auraient pris une heure et demie de Shoah ou une heure pour pouvoir les comprendre. Et c'est la force de ces films-là, c'est d'avoir ces histoires dans la longueur, c'est-à-dire qu'on n'est pas.
Ruth, c'est le plus long, il fait une heure et demie,
1h29.
Ah oui, très peu de points de montage.
Il fait une heure et demie et on arrive à comprendre quelque chose de l'incompréhensible. D'ailleurs, quand elle parlait au début, on ne pouvait parler à personne et personne ne voulait nous entendre, mais parce que c'était quelque chose qui n'était pas pensable et qui n'avait été commencé à être réellement pensable qu'à partir de Shoah. Et elle-même raconte comment, arrivant dans les camps, elles ne peuvent pas croire qu'il y a ces meurtres de masse, qu'il faut vraiment monter sur le toit et voir que des gens rentrent et ne ressortent jamais et que derrière, il y a des piles de cadavres pour commencer à appréhender l'impensable absolu.
Lucille Comeau.
Oui, sur la question de l'appréhension, bon, là, pour le coup, c'est un peu la même démarche que dans Shoah, ce qui demande tout le temps Claude Lanzmann. Et d'ailleurs, des fois, on l'envoie un peu bouler. Hein, c'est le cas de Ruth qui le rembarre quand même à plusieurs reprises là-dessus. C'est quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé à tel endroit ou quand vous avez vu telle personne. Antoine parlait de Mengele. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment une question qui est vouée à l'échec. Et Lanzmann continue à la poser tout le temps, alors que de toute façon, on le sait que retourner à la racine de ce que c'était l'incompréhension à ce moment-là, à rebours, c'est impossible. Et c'est là que toute la question du récit est quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire comment le récit, de toute façon, reconstruit toujours. Et la question historique, en fait, vous en parliez, Florence, c'est une question qui est un leurre absolu, et Lanzmann le sait. Il y a quelque chose de l'illusion à toujours demander comment c'était exactement quand vous êtes arrivé, est-ce que tel gare, vous vous souvenez que c'était écrit Theresienstadt dessus ? Ben, c'est incroyable de poser ces questions-là.
Ben surtout, la différence, on le voit, à un moment, il va demander à Ada Lichtman et son mari, à votre avis, la chambre à gaz était à quelle distance des baraquements ?
Ouais.
Ils vont dire, écoutez, ça devait être 2-3 km, c'était très 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 long pour y aller. Et là, effectivement, Lanzmann qui a enquêté, il dit, c'était 400 mètres.
Ouais.
Voilà. Et là, la compréhension et l'impossibilité de de savoir ce que c'était de vivre ça et montré par ça. Mais ces deux réalités existent, en fait.
Ouais, complètement. Florence Colombani.
Par rapport à ce que disait Antoine Guillot sur le fait qu'il y a ces deux témoignages, enfin les deux derniers films qui auraient été inaudibles plus tôt, je trouve ça quand même très beau et très frappant que Claude Lanzmann ait donné ce titre des quatre sœurs. On ne sait pas ce que ça veut dire quand on commence. On se dit peut-être qu'elles sont sœurs. Non, elles ne sont pas du tout sœurs. Elles sont sœurs métaphoriquement. Elles sont sœurs de destin. Et le fait de dire qu'elles sont sœurs de destin n'est pas anodin. C'est déjà très fort de les poser comme sœurs, alors que on pourrait, sans sensibilité, faire des gradations entre l'horreur de leur sort.
Oui, enfin, c'est un beau titre, comme tout beau titre, qui est un peu faux. Enfin,
oui,
de quoi sont-elles sœurs ?
Qui a quand même un sens profond. Elles sont quand même sœurs quelque part.
C'est problématique parce qu'elles sont très différentes. Lanzmann, je le disais, les films différemment. Par exemple, on sent très bien que la question de classe, elle intervient. Et par exemple, entre cette deuxième interlocutrice qui, d'ailleurs, le film est beaucoup plus monté, dont on sent qu'elle vient d'un milieu. Voilà, la parole est moins facile, elle a moins intellectualisé son expérience. Par rapport à la dernière ou à l'avant-dernière, qui est la dernière, qui est une femme de docteur hongrois, il y a une grosse différence. Et d'ailleurs, ça se termine là-dessus, en fait. La fin du quatrième épisode, c'est « Mais il y avait des pauvres, en fait, dans ceux qui ont été sauvés. » Et elle dit « Comment ça ?» Enfin, c'est fou que ça se termine sur cette question de classe, de la lutte des classes, elle est aussi là. Elle est aussi dans ce grand processus-là. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus intéressé au final. Et ce qui contredit tout à fait le titre, je trouve. C'est étonnant d'avoir...
Ça ne veut pas dire identique non plus. Enfin, c'est la notion de fraternité, je ne pense pas que ce soit la notion de famille.
Elles sont sœurs en survie, puis sont aussi nos sœurs. Parce que moi, j'étais très ému que ces films aient été tournés dans les années 70. Ces femmes sont toutes mortes, aujourd'hui, de vieillesse. Et elles sont là, et on est frères et sœurs en humanité. Enfin, quand on les regarde, moi, elles vont me rester longtemps avec moi. Voilà, ces femmes.
Les quatre sœurs de Claude Lanzmann, qu'on peut voir sur Arte, les deux premiers ont été diffusés mardi dernier, les deux suivants mardi prochain, et en DVD. Antoine Guillaume, qui a beaucoup de chance, a déjà le coffret DVD publié chez Cinecdoc.
Arte Édition.
Et ce dimanche, 28 janvier, si vous êtes à Paris, les quatre films seront projetés au Mémorial de la Shoah, donc à Paris à partir de 14h. À suivre dans la dispute, La Douleur et Three Billboards.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission consacrée ce soir au cinéma, toujours en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pour parler à présent du nouveau film d'Emmanuel Finkiel, La Douleur, d'après le livre de Marguerite Duras. Nous restons donc hélas dans le sujet précédemment traité, avec cette fois la question de l'attente du retour des camps, en l'occurrence le retour de Robert Anthelme, le mari de Duras.
Je savais qu'il savait. À chaque heure de chaque jour, je le pensais. Robert n'est pas mort au camp de concentration.
Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé. Ils vont chercher à tout remonter.
Vous êtes la femme d'Antel?
Oui, c'est ça. J'ai rencontré le flic qui a arrêté Robert.
Pardon,
le salaud de la Gestapo.
Je suis très flatté d'être assis à la même table qu'un écrivain.
Je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari.
Pour votre colis, je vais voir ce que je peux faire.
Merci.
J'ai peur pour toi, tu comprends.
Il faut que je fasse attention. Je vois ce qu'il essaie de faire.
Vous connaissez cet homme?
Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui.
Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert soit pas déporté.
Comment ça, déporté?
Marguerite! Vous me méprisez. Les gens comme vous, ça méprise les gens comme moi.
La plus attachée. Robert Anthelme ou l'autre douleur?
Bon, d'abord de l'eau à mon moulin, et rassurez-vous, la musique que vous venez d'entendre n'est pas dans le film, mais dans la bande-annonce. Hélas, il faudra vraiment qu'on fasse cette dispute bande-annonce un jour. Ça me titille beaucoup trop. Bon, parole un peu légère, quoique ce soit un sujet tout à fait digne que celui des bandes-annonces, pour parler à présent de cette adaptation. Alors, La Douleur, mais pas que La Douleur. Lucille Gaumont, pour commencer.
Oui, alors c'est drôle de parler de musique, parce que je trouvais justement que la musique, qui est une musique originale dans le film, est quelque chose de très abstrait, de très brumeux, et elle est très très belle. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais dire en premier, parce qu'on l'a entendu justement dans la bande-annonce, cette voix off qui est omniprésente, puisque c'est vraiment une adaptation du texte de Marguerite Duras, assez fidèle dans le sens où le texte est abondamment cité par donc Mélanie Thierry qui interprète Marguerite. Je trouve que j'aime vraiment pas beaucoup les voix off en général, et je trouve que c'est une voix off qui est très réussie, parce qu'elle fait le pari de l'écrit pur, c'est-à-dire que c'est vraiment un texte qui est très littéraire, très écrit, et que c'est assumé et lu comme ça. Donc déjà ça, je trouve que c'est très beau, et comme c'est une des premières choses qu'on entend dans le film au début, c'est très réussi.
Je valide, je suis d'accord avec vous.
Bon, aussi. Alors super. Il y a quelque chose d'autre qui m'a frappé.
Le contraire serait pas grave non plus.
C'est, c'est la manière dont est filmée la guerre. Je me suis rendu compte en voyant ce film, et en voyant notamment des images de Paris occupées, que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film contemporain sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors peut-être que je suis pas allée assez au cinéma ces derniers temps.
Oui. Vous avez pas vu Dunkerque?
Si. Mais bon, non, mais là c'est différent, parce que c'est un film de guerre. Ouais, là, c'est un film un peu
dans le Paris occupé.
Voilà,
enfin,
exactement. Voilà. Et c'est, je trouve que c'est difficile de faire ça, parce qu'on a tellement de clichés, y compris cinématographiques et télévisuels, sur cette période et sur ce Paris-là, que je trouve qu'il s'en sort très bien pour justement montrer un contexte qui est particulier, et qui est particulier parce qu'en fait il est vu uniquement au prisme d'un personnage, qui est ce personnage de Marguerite, à partir duquel, à partir des yeux de laquelle absolument tout est vu. Ça commence par un gros plan sur son visage, il y a beaucoup de plans sur sa nuque et sur ses cheveux, et en fait tout est vu à travers le regard de ce personnage, et la douleur, c'est évidemment sa douleur à elle, qui est une douleur qui transfigure tout et qui transfigure aussi le film. C'est-à-dire c'est presque un principe esthétique que cette attente qui en fait fait toute la substance du film. C'est ça qui est beau, je trouve, c'est que tous les événements, y compris des événements historiques, sont totalement subjectivés par le film. Il y a notamment un passage qui est, à mon avis, le plus réussi. C'est une séquence filmée dans un restaurant. C'est en fait la bascule du film, puisque Marguerite rencontre pour la énième fois, il y a plusieurs rencontres, Benoît Magimel, donc, qui joue un officier de la Gestapo, donc un officier français, qui collabore évidemment, et qui essaye, on comprend pas bien ses intentions, mais en tout cas il lui donne des renseignements sur son mari. Et donc elle le rencontre dans un restaurant à un moment clé où on sent que les alliés vont arriver et qu'en gros la guerre, ça va se retourner, quoi, le rapport de force va s'inverser. Et Finkiel filme tout à l'échelle de la table, de deux tables en fait, deux restaurants, très proches des personnages, donc Marguerite et son interlocuteur, et puis une table à côté où il y a quatre personnes qui dînent. Et on sent que la peur change de camp, et elle le dit d'ailleurs. Et c'est très beau de voir à quel point il arrive à concentrer toute une tension historique sur lesquelles on a plein de clichés, encore une fois, plein d'images données, dans un tout petit endroit qui est filmé comme si c'était vraiment extrêmement petit et très plein de gens. Avec un vrai souffle, c'est-à-dire qu'on sent quand même tout le poids écrasant de cette période-là, ouais, sur les épaules des personnages. Et voilà, donc d'un point de vue, disons, historique, contextuel, global, je trouve que c'est très réussi.
Florence Colombani, sur la douleur.
Oui, moi j'ai eu beaucoup de réserves et je suis troublée parce que je vois que c'est un film qui émeut énormément et que la critique est enthousiaste et je suis prête à croire que je suis passée à côté de quelque chose, mais il m'a semblé que dans la façon dont Emmanuel Finkiel appréhende le livre, il manque quelque chose de fondamental dans ce livre, qui est le retour de Robert Antelme et la confrontation.
Tout ce qui suit le retour.
Voilà, et la confrontation entre cette femme qui s'est consumée de douleur et son mari et son corps de déporté qu'il faut ramener à la vie, alors qu'elle n'est plus amoureuse de lui, que c'est une souffrance pour elle, qu'elle a cette liaison avec Dionys Mascolo, qui dans le film est joué par Benjamin Biolay, ce qui, entre parenthèses, pour moi, était aussi un obstacle, tout simplement, enfin, d'adhésion, voilà, de croire à la fusion entre ce rôle et cet acteur, bon. Et donc il y a cet énorme morceau du livre qui n'est pas là. Alors je comprends que c'est un choix qui peut se tout à fait se justifier, qu'on peut avoir peur ou ne pas vouloir montrer le corps d'un déporté, c'est un choix qu'il a fait, voilà. Simplement, pour moi, du coup, le film prend, en tout cas dans sa première partie, un côté biopic de Marguerite Duras. Et qui, voilà, pour moi, n'est pas si éloignée du téléfilm. Alors, bien sûr, c'est très bien mis en scène, mais elle est en même temps dans des très jolis petits costumes, très bien coupés. La caméra est très proche de Mélanie Thierry, pourrait forcer, je pense, une incarnation qui, à mon sens, n'advient que très tard dans le film. Alors, elle finit par advenir, mais pendant un long moment, je ne trouve pas que ce soit le cas. Et tout ce rapport avec Benoît Magimel, pour moi, il y a quelque chose de très théâtralisé, de très explicatif. Il y a beaucoup de redites entre la voix off et ce qui se passe dans les scènes de dialogue. Donc je trouve qu'il y a une deuxième partie où, en effet, le film n'est plus qu'attente et n'est plus qu'un tête-à-tête entre le cinéaste et sa comédienne et l'attente dans un appartement. Et là, ça devient très fort. Et la toute fin est magnifique. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était une deuxième moitié.
Alors, pour préciser les choses, il faut dire que, effectivement, le film s'arrête là où, pour moi, le texte est le plus fort, et toute la fin du texte, mais que, du coup, cette première partie dont vous parlez avec Benoît Magimel, elle provient d'un autre texte La douleur, c'est un recueil de textes, on va dire ça comme ça. Il y a ce texte qui s'appelle La douleur, qui est le récit et de l'attente du retour de Robert Antelme, et surtout du retour à la vie très lent, très dur, physiquement, psychiquement, et ce sont vraiment des pages à la fois très belle et tout à fait insoutenable. Et puis, parmi les autres textes, il y a ce Monsieur X, qui est donc l'histoire de cet agent français de la Gestapo, avec qui c'est cette liaison un peu étrange, où chacun joue au chat et à la souris, et qui, du coup, moi, j'étais très surpris de l'avoir arrivé dans ce film qui s'appelle La douleur. Donc, je m'attendais à voir l'adaptation du texte La douleur, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais j'y reviendrai. Antoine Guillot.
Oui, moi je suis un peu comme Florence Colombani et peut-être encore plus assez embarrassé par ce film qui souffre de plusieurs problèmes. Le premier, c'est la présence écrasante de Marguerite Duras. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le fantôme de Marguerite Duras et surplombe ce film en permanence. Alors elle qui écrivait Au début de la douleur, et ce qui est repris d'ailleurs dans la voix off du film, l'histoire véridique ou pas, on ne saura jamais de ce journal qu'elle aurait retrouvé où elle dit... Ah, voilà, tout d'un coup,
j'ai retrouvé ce carnet, je ne me rappelais pas l'avoir écrit.
Je ne l'ai pas du tout réécrit. Je vous le livre tel quel. Et où elle dit à un moment, la littérature m'a fait honte. Mmh. Voilà. Et la littérature, c'est pour moi le problème du film. C'est-à-dire que c'est assez bâtard dans sa façon de l'utiliser. Cette voix off qui veut dire le texte, mais à ce moment-là, il aurait presque fallu faire un film très radical où il y aurait la voix off et des images. Mmh. Presque abstraite, qui n'aurait rien à voir dessus, ou alors la volonté,
comme à la
Marguerite Duras, ou alors faire un film qui enlève complètement la voix écrasante de Duras et qui illustre, ou en tout cas qui trouve des moyens cinématographiques de recréer cette langue-là.
Il est un peu entre les deux.
C'est là que je dis que c'est bâtard. Mmh. C'est qu'il est entre les deux. Donc il va trouver des procédés cinématographiques comme l'utilisation de la langue focale où tout va être flou, pas d'arrière-plan, elle est dans sa bulle, enfermée dans sa douleur, le principe de la dissociation, un phénomène psychologique connu, on se regarde agir, donc Mélanie Thierry va apparaître deux fois dans le cadre, elle se regarde s'habiller, se maquiller, elle se regarde descendre l'escalier, elle s'imagine le retour de Robert Antel, alors que ce n'est pas encore le cas. Mais comme il y a les deux, il y a un effet parfois, comme disait Florence Colombani, de redondance entre le texte. Il y a des moments, on a l'impression que l'image se contente d'illustrer. À un moment, elle dit la douleur rend sourd. Alors comme c'est difficile, la surdité à l'écran, tout va devenir flou. Donc la douleur rend aveugle, en plus, nous dit le film. Et puis, c'est vrai que la distribution est très... est très déséquilibré, quoi. Autant j'étais assez agréablement surpris par Mélanie Thierry, qui tout d'un coup fait preuve d'une profondeur qu'on lui connaissait pas. Je trouve que le travail de Benoît Magimel sur ce personnage qui est à la fois odieux et en quête de quelque chose qui sublimerait sa vilénie est assez intéressant. D'ailleurs, l'épaississement physique de Benoît Magimel provoque quelque chose d'assez beau. C'est vrai que la désinvolture molle de Benjamin Biolay, on n'a pas du tout, on n'en arrive pas à croire que son personnage soit même séduisant. Enfin, c'est quelque chose d'assez...
Ni même qu'il appartienne à cette époque. Enfin,
non, mais voilà, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout dedans. Après, alors, la question de la reconstitution, à la fois, pose problème, mais pas trop. C'est-à-dire, je pense que le film bénéficie de son manque de moyens financiers qui lui évite de faire des grandes scènes de reconstitution.
Ah, le flou a aussi cet avantage, quand même.
À la laisser passer. Sauf
mais c'est
que
une
quand
bonne
il,
idée. Hein.
Sauf que quand il le fait dans cette scène de restaurant, justement, tout d'un coup, moi, je vois des comédiens habillés, très bien habillés par des costumiers d'aujourd'hui, et j'ai du mal à y croire. Il y a une belle image, quand même, c'est celle où... le personnage de Marguerite donc traverse la place de la Concorde complètement vidée, mais c'est pareil, c'est une image qui tout d'un coup est tellement majestueuse, presque publicitaire dans son effet, que ça rajoute encore un peu à la bâtardise du film.
Peut-être avant de continuer sur le table, Grégoire Difior a un avis recueilli sur Facebook.
Sur Facebook, de Christophe Despo, qui dit que la voix off caution durassienne a beau signifier la douleur et Mélanie Thierry tout faire pour l'incarner, elle ne parvient jamais à l'écran et encore moins au spectateur qui souffre bien pourtant, non pas des terribles émotions vécues par les personnages, mais de l'inanité absolue de leur représentation en art et essai filandreux. Cette douleur qui n'éclate que dans le titre est pratiquement anesthésiée par le film, dont l'horizon esthétique à la surface et au fond est celui de la toile cirée. Rien n'adhère, un coup d'éponge et tout est oublié. À sauver, Benoît Magimel, remarquable et très touchant dans son imitation peut-être involontaire de Depardieu. En dessous de tout, Benjamin Biolay qui semble sortir à chaque scène d'une nuit d'enregistrement en studio.
Ouais, toujours dans la demi-mesure, hein, Christophe Despo.
On n'aurait jamais osé être aussi méchant.
Oui, mais Christophe Despo ose régulièrement. Alors, pour synthétiser un peu avant de vous redonner la parole, moi je pense que c'était une mauvaise idée que de vouloir porter ce texte à l'écran. Mais je pense que Emmanuel Finkel l'a fait le moins mal possible. Parce que je pense que c'est un garçon sensible, fin, intelligent. Sa filmographie le montre à l'évidence et qui s'est quand même posé des questions justes. Et c'est vrai que s'arrêter au moment où Robert Antelme revient des camps, c'est-à-dire ne pas essayer de montrer ce qui se passe avec ce corps-là, Mais en même temps, c'est pourquoi l'avoir fait, du coup. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est pas une bonne idée. Il le fait le moins mal possible. Mais Lucille, vous avez l'air fâchée, donc je vais vous donner la parole dans un instant. Mais moi, je soutiens à fond Ménalit Thierry. Je trouve qu'elle apporte vraiment beaucoup au film. Moi, je l'ai pas vue dans beaucoup de films. Je sais pas, Antoine, vous avez l'air de
toujours été
d'être surpris. Mais moi, je vous rappelle juste de La Princesse de Montpensier. Ah,
oui.
Ça date d'il y a quand même longtemps.
Elle était rarement dans ce registre.
Dans ce registre-là, je trouve qu'elle amène quelque chose et on l'entend. Voilà. C'est vrai que le film commence fort bien comme cela, parce que commençant par cette voix off du vrai texte, on sait qu'on est quand même quelqu'un qui comprend et qui est dans cette sensibilité-là, et ça c'est quand même très 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 beau. Alors c'est étonnant d'avoir ce parti pris effectivement de coller au personnage de Marguerite, parce que, enfin, j'imagine que vous avez pensé aussi au fils de Saul, avec cette focalisation sur le, on va dire, le personnage principal, et toute sa vision du monde se trouve affectée par ce qu'il est en train de vivre et ce qui motive ses actes et ses actions. Mais Mélanie Thierry, je trouve que ce qui est beau, c'est qu'elle ne singe pas du tout Marguerite Duras, mais que malgré tout, moi je trouve que j'ai pas vu de fantôme pesant, comme vous le disiez, Antoine Guillaume. Moi je trouvais qu'il y avait une présence assez fine, assez subtile, et c'est si rare concernant Marguerite Duras, dont on fait le pire et le très rarement le meilleur, que pour moi c'était une belle chose. Et puis je suis d'accord, ce Bonhomme Magimel qui a une présence quand même extrêmement forte à l'écran, d'ailleurs dans des rôles très antipathiques ou très sympathiques, il a, pour le coup, il a un corps qui a un magnétisme très très puissant, enfin, je trouve. Alors, Florence Cambani et Lucille Comeau qui étaient agacées.
Non, juste par rapport à ce que vous disiez sur Mélanie Thierry, c'est vrai qu'elle a quelque chose de juste et qu'elle finit par incarner le trajectoire de cette femme. Et moi, je l'ai trouvée carrément bouleversante à la toute fin, quand elle sait que son mari est dans la rue et qu'on va le remonter et qu'elle a une crise d'angoisse.
Ah oui, moi, c'est le moment que j'ai pas aimé, vous voyez, donc on est raccord, finalement.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une scène très révélatrice du film, je trouve, où Benjamin Biolay, enfin, Mascolo, la prend par la nuque et la met devant une glace et lui dit « Regarde-toi, qu'est-ce que t'es devenue ?» Parce que quand on a lu le livre, on se souvient bien qu'elle se laisse... enfin, elle ne se lave plus, elle est dans un tel état de dépression ou de pétrification qu'elle n'est même plus un corps digne, enfin. Mais ce qu'on voit à l'écran, c'est une ravissante Mélanie Thierry en sous-vêtements, et je trouve qu'il y a vraiment... cette scène, il n'y a pas du tout d'adéquation entre la violence de ce qui est dit et l'image, je trouve.
Elle est vraiment pas mise à son avantage.
Non, mais elle est très belle, mais pour le coup, elle n'est pas apprêtée. Enfin, il y a plein de moments.
Justement, là.
Moi, je trouve vraiment que... Bon, déjà, sur le choix du texte, d'avoir choisi justement le moment avant, c'est l'attente, pour le coup, c'est un projet. Enfin,
C'est une stratégie d'évitement du texte.
Ah, moi, je ne pense pas. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Moi, je pense que c'est plus difficile d'avoir choisi ça, de représenter ça, que le retour. Enfin, de mon point de vue, c'est moins spectaculaire que de filmer l'attente de quelqu'un, que de filmer le retour de quelqu'un. Mais bon. Et moi, justement, les scènes qui sont des scènes pauvres, où elle est seule, où en effet, elle se voit elle-même dans cet appartement, où tous les bruits, il y a un travail sur le son aussi,
très beau.
Est quand même très beau, où tous les bruits sont accentués par la douleur, les bruits de l'horloge, la rumeur au dehors. Vraiment, tout le travail sur le son est magnifique. Je trouve que c'est des scènes très belles. Je vois ce que vous voulez dire sur la redondance, j'y ai pensé aussi. Il y a un côté tautologique à faire redoubler à chaque fois le propos par la voix off et les dialogues, etc. Mais justement, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, en revanche, c'est quand le film sort de ce point de vue-là. Et je trouve qu'il y a, s'il y a quelque chose en trop, c'est ce personnage de Madame Katz, qui est juste, je crois, dans le texte, il y a juste une allusion, et qui sort un peu justement le film de la question de l'attente, puisque s'ajoute une autre histoire d'attente, et que du coup, là, c'est presque dommage, parce que ça sort le spectateur de l'état dans lequel il a été mis au départ.
Oui, mais là, c'est l'histoire des tissages, parce qu'elle était dans le film Voyage d'Emmanuel Finkielz.
Oui, bon.
Voilà, enfin bon. J'entends bien. J'aime beaucoup aussi, mais toujours, Grégoire Le Prince Ringuet, qui fait un François Mitterrand absolument magnifique, dont on devine le potentiel quand on le voit, qui a un très beau rôle, dans cette histoire concernant Robert Antel. Mais Marguerite Duras, La douleur d'Emmanuel Finkielz est sur les écrans depuis le 24 janvier. Et puis, signaler que Emmanuel Finkielz aura sa nuit rêvée dans une nuit de France Culture, ce sera la nuit de samedi à dimanche, avec Mathilde Wagman. On peut passer toute la nuit avec lui.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Get the right guy. Et le troisième sujet de cette dispute cinéma, avec un film qui va paraître beaucoup plus léger que les précédents, alors même que son sujet n'est pas quand même d'une franche gaieté. Je vais parler de Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, écrit et réalisé par Martin McDonagh, plusieurs mois après le viol et le meurtre de sa fille. Je vous avais prévenu, ce n'était pas d'une franche gaieté. Mildred Hayes trouve que la police de sa petite ville ne fait pas grand-chose. Elle décide donc de louer ses trois panneaux publicitaires à l'entrée de la ville, en mettant en cause le chef de la police.
What's the law on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss or cunt, that right?
Or anus?
I think I'll be all right then.
I guess you're Angela Hayes' mother.
That's right. I'm Angela Hayes' mother.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
The hell is this?
Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids.
I know, Chief, but I think we got kind of a problem.
Sunshine beating on a good time.
I'd do anything to catch your
daughter's killer.
I don't think those billboards is very fair.
The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now.
We've had two official complaints about those billboards.
From who?
The lady with a funny eye.
A lady with a funny fucking eye?
And a fat dentist.
There's a lot of good friends of Willoughby in this town, Miss Hayes. Ow! You didn't happen to drill a little hole in the dentist today, did you?
Of course not.
Huh?
I said, of course not.
I'm sorry about Angela.
Bon, très longue bande-annonce et comme le temps file, on reprend le micro un peu plus tôt, mais je compte les bandes-annonces, donc ça tombe bien. Three Billboards, Florence Colombani.
Alors, Martin McDonagh, c'est un dramaturge britannique qui s'est fait connaître au cinéma avec un film qui s'appelait Bruges, qui était un peu une comédie noire assez réussie avec Colin Farrell, en tout cas très drôle. Et là, ce qui reste de son talent, c'est ses pointes d'humour noir qu'on entend un peu dans la bande-annonce, ses expressions parfois assez drôles, ce talent. Il y a notamment une scène assez formidable où cet humour noir explose. Mais le problème, c'est qu'il a voulu faire un drame politique, un drame historique, un drame... C'est un film contemporain, mais je veux dire un film qui nous dit des choses sur l'Amérique contemporaine. Avec un sérieux qui plombe complètement, je trouve, le film. Et ça s'inscrit dans un genre du cinéma américain qui est le film sérieux qui a des choses à dire sur l'Amérique. Ça remonte aux années 40 et 50. C'était la Fox qui produisait des films comme ça. Il y a aussi Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison avec Sidney Poitier, auquel il est fait copieusement allusion dans l'histoire, puisque à un moment, un personnage noir rentre dans un poste de police et se fait recevoir exactement comme Sidney Poitier dans ce film-là se faisait recevoir. Et très récemment, il y a encore eu des films, toujours à Oscar d'ailleurs, comme American Beauty ou Crash, qui se sont inscrits dans cette lignée. Et c'est assez triste de voir où on en est dans les films de ce genre. C'est-à-dire que c'est un film sursignifié, où chaque personnage est là pour représenter un aspect de l'Amérique, où l'interaction entre ces personnages est censée nous dire que oui, une réconciliation entre l'Amérique de Trump et l'Amérique libérale est possible un jour. Et c'est d'une lourdeur terrible. Et je trouve que c'est très dommage quand on a un talent d'ironie et d'humour noir comme ce Martin McDonagh en a un, manifestement, de le perdre comme ça, avec ce sérieux.
Bon, je résume, ça vous a beaucoup plu, hein, Florence Colombani, Antoine Guillot et The Three Billboards.
Alors, je crains que le réalisateur fasse moins référence, et n'est pas votre culture cinématographique, Florence Colombani, à ses films des années 40-50. Non, je pense qu'il fait référence aux films qui faisaient référence. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un genre...
Je sens que vous avez aimé aussi, tiens.
La relecture de ça, c'est-à-dire... le cinéma des frères Cohen en particulier, c'est-à-dire ces films d'Americana qui poussent ça très loin dans la bêtise des personnages, mais dans l'affection qu'on leur porte aussi, tellement ils sont magnifiquement bêtes, avec ce personnage en particulier de l'adjoint joué par Sam Rockwell, l'adjoint Dixon, extrêmement raciste, homophobe, enfin il coche toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire actuellement à l'écran, et qu'on va montrer comme étant finalement un bon gars bien sympathique, parce que s'il est raciste, c'est surtout qu'il est bête, il va dire non, mais on va pas dire que vous dites pas que je torture des noirs, dites que je torture des personnes de couleur. il comprend pas le politiquement correct, quoi. Le politiquement correct, ce n'est pas le, ce n'est pas que
ça
dans les,
que
dans
les mots.
Mais oui, mais ça c'est drôle. Non, mais
c'est
il a du talent. Il a du talent pour faire ça. Alors moi, je trouve que le film commence effectivement très bien parce que il met sur la table beaucoup de choses qui sont dans l'air du temps actuellement. On pense à il est à la fois question de female empowerment, c'est vraiment les femmes qui vont prendre le pouvoir, se venger, tenir tête aux flics. Il est question des homosexuels, des noirs. Enfin, tout est là. Et puis tout d'un coup, il veut faire, comme vous l'avez dit, la grande fiction réconciliatrice, c'est-à-dire de dire tout le monde a des raisons. Le gars, il est raciste, mais c'est pas bon. Là, c'est un pauvre type qui vit chez sa mère depuis longtemps. Il connaît pas vraiment le monde. Une rédemption est possible. Et à force de vouloir mettre tout le monde un peu d'accord, il annule des choses qui étaient formidables sur le papier au début. Et c'est un peu finalement ce qu'il faisait dans Bon Baiser de Bruges, où là encore, c'est du commentaire sur le genre du film de tueur à gages. Et on voit qu'il s'est fait un peu sa liste de tous les éléments qui dedans, il va les agiter, et puis on est assez excité au début. À la fin, il ne reste finalement pas grand chose. C'est assez curieux sur un film qui commence si bien, qui est porté par une Frances McDormand impeccable, alors qui mélange tous les personnages des films des frères Coen, à la fois la fliquette enceinte de Fargo, sauf que depuis elle a eu sa fille et sa fille s'est fait tuer. Mais on peut prendre tous les personnages d'abrutis un peu sur deux et très attachants, et qui finalement vont découvrir la complexité de la vie. Mais c'est tellement laborieux dans la manière de l'amener qu'on voit des grosses ficelles. C'est très étonnant d'un film qui m'excitait tellement dans sa première demi-heure et qui n'a cessé de me décevoir au fur et à mesure.
Bon, Lucille Como opine, et pas d'accord, ça dépend des moments. Il faut la filmer, évidemment, Lucille Como, pour voir ses réactions.
Non, et pour voir son pull aussi.
Oui, bon, ça...
C'est un film bizarre parce que il est... Quand il s'est terminé, je me suis dit, bon, ça doit être un film adapté d'un roman, et il a voulu tout mettre ce qu'il y avait dans le roman, et il n'a pas su s'en dépatouiller. En fait, c'est un scénario original, donc c'est lui qui l'a écrit. Or, il ne sait pas très bien ce qu'il fait, on a l'impression qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Donc, il y a un problème de genre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une sorte de... Pour moi, il y a plein de genres dans ce film, donc ça ressemble un peu à du Tarantino, un peu Frère Cohen, il y a un peu de mélo, enfin, c'est tout mélangé. Il y a aussi un problème de personnage, c'est-à-dire qu'au départ, ça commence avec un duo duel assez alléchant entre Woody Harrelson et Frances McDormand. Il y a des scènes vraiment presque, moi, qui sont pour moi des scènes d'anthologie entre les deux. Ça fonctionne extrêmement bien. Et puis pour des raisons qu'on ne va pas dévoiler, bon, il y a un des personnages qui sort du terrain, et du coup il est un peu remplacé, c'est comme un relais, par ce fameux adjoint donc, qui est joué par Sam Rockwell, qui est vraiment un personnage secondaire au départ, et qui est un personnage secondaire, c'est-à-dire qu'il a un seul trait de caractère intéressant, c'est ce côté semi-enfantin, semi-débile, qui était un peu le Colin Farrell de Bruges. Donc il prend le relais, donc comme il est tout seul comme personnage, bah, faut bien qu'il ait d'autres côtés intéressants, parce que sinon il se passe plus rien dans le film. Donc il y a un côté un peu étrange à ce côté patchwork qui choisit ni entre les genres, ni entre ses personnages, donc à la fois à l'écriture et à l'esthétique générale, il y a un côté un peu n'importe quoi. Au-delà de ça, je vous trouve quand même sévère, parce que même si c'est un peu n'importe quoi, c'est pas désagréable à voir. La musique est extrêmement pénible, ça pour le coup, il faut le dire, parce que ça plombe vraiment le film. Je pense qu'il n'y aurait pas de musique, déjà, ça changerait beaucoup. Mais ça se regarde quand même bien. C'est assez drôle. Sam Rockwell, pour le coup, jusqu'au bout, même si son personnage s'affadit un peu de mon point de vue, c'est un acteur formidable que moi je connaissais assez peu, à part dans des rôles de psychopathe où il fait exactement tout le temps la même chose. Là, il se donne un peu d'étoffe. Bon, il est formidable. D'ailleurs, il est nommé en meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars. Franchement, il pourrait... Enfin, je ne sais pas pourquoi il est en second rôle, parce qu'il a clairement le rôle principal. À l'inverse, Frances McDormand fait tellement un patchwork, à nouveau, de tout ce qu'elle fait par ailleurs, y compris dans les films des frères Coen, qu'on en a un petit peu marre à la fin, je dois dire.
Alors d'abord, je veux quand même noter que j'adore, comme vous dites, Bruges, hein, évidemment, pour Bruges. Reprendre cet accent des personnages du film précédent de Martin McDonagh. Ben... Pardon, je suis extrêmement bon public, parce que moi j'ai beaucoup aimé ces trois panneaux qui ne sont pas des panneaux de la vengeance. Pour une fois qu'il y a un titre français, il est débile, mais enfin, ça passant. Moi je trouve qu'il y a une qualité d'écriture qu'on trouve assez peu aux États-Unis, et de fait, il est britannique. Martin McDonagh, il a surtout écrit beaucoup de théâtre, ce qui ne m'a pas étonné quand j'ai découvert cela. Moi je ne connaissais pas son théâtre, et je trouve que la qualité d'écriture, elle est aussi... renforcé par une qualité de direction d'acteur. Alors quand vous dites, je reprends un peu différents éléments, problème de genre, c'est tout mélangé, mais c'est ce que j'apprécie aussi dans ce film-là, c'est que justement, c'est pas absolument balisé. Quand vous dites les films des 40-50, vous disiez non, il a vu cela, Je vais vous faire crier en disant, mais Capra a réconcilié tout le monde aussi, bien avant aussi. Donc, pourquoi pas cette lignée-là ? Et moi, je trouve qu'il a un regard pas du tout cynique et pas du tout surplombant sur ces personnages, que chacun existe d'une assez belle façon, ce qui n'est pas aussi une chose très fréquente dans le cinéma. On a quand même toujours ceux qu'il faut aimer, ceux qu'on ne doit pas aimer. Il y a une complexité qui n'est quand même pas très hollywoodienne de ces 30 dernières ou 40 dernières années. Enfin, beaucoup d'arguments qui font que moi, j'ai pris du plaisir tout du long. J'ai beaucoup rigolé aussi. J'ai été ému. Enfin, suis-je devenu trop bon spectateur, Antoine Guillot ?
Non,
trop bon public.
Non, parce que je suis assez d'accord. Le film se regarde.
Quand même.
Le film se regarde, mais il se regarde pour moi comme une série télé. C'est-à-dire, en fait, j'ai eu le sentiment qu'on avait, je ne sais pas combien de temps dure compacté. Le film, deux heures et demie, deux heures six. Qu'on avait compacté une saison entière d'une série. Donc il y a un concept même artistique très fort, enfin qui tient bien, des personnages bien campés et qu'on va faire évoluer à toute vitesse dedans de manière. Et c'est là que je le sens un peu artificiel. Quand vous parlez de qualité d'écriture, pour moi, c'est justement, il y a presque trop
écrit.
Trop d'écriture et trop de. Voilà, on va faire, il nous faut toutes les 10 minutes un retournement pour qu'on change notre point de vue sur le personnage, qu'on évolue sans arrêt. Et pour moi, ça tient beaucoup, effectivement, à la manière dont on voit les séries télévisées actuellement. Sauf qu'on n'a pas l'expérience du temps et de l'attachement au personnage qui vient de là. C'est pour ça qu'au début, je pensais qu'il y aurait quelque chose de proprement cinématographique, parce que tout était là pour. Et ma déception vient de là. Ma déception vient de ce que, finalement, ça se regarde, mais ça coule, sans que ça provoque jamais autre chose que, de temps en temps, on rit parce qu'il y a des dialogues bien écrits, comme dans les séries télé, et des personnages bien campés, et des comédiens très bons, comme dans les séries télé.
Je vous dis pas que je vais y repenser dans une semaine, dans un mois, dans deux ans. Moi, j'en aurais bien pris 13 fois 40 minutes, pour le coup.
Mais attendez,
sans problème.
Il n'est pas impossible qu'un jour, on ait la déclinaison en série télé.
On est d'accord. Fargo, pour le coup.
Fargo, formidable.
Existe en série. Florence Colombani.
Mais je trouve que la comparaison avec les frères Cohen s'impose, en effet, parce que c'est des personnages d'idiots. Oui. Il y a Francis McDormand, il y a la musique de Carter Burwell, il y a Sam Rockwell. Enfin, on est en territoire. Mais la différence, c'est que les idiots des frères Cohen ne sont pas là pour nous délivrer un message sur comment devenir quelqu'un de meilleur. Or, c'est quand même ce que devient ce film.
Non, chez
les frères Cohen, il n'y a pas du tout cette trajectoire. Ah, si, là, quand même. La trajectoire de Dixon est quand même
celle d'une
rédemption. Enfin, ça me paraît.
Parce que la fin, elle est tout à fait indécise. Justement, la question à la fin, c'est la question du choix. Ah non, je ne sais pas.
On sent bien que. On n'a le droit de rien dire.
Non, moi, je trouve que. D'abord, les personnages peuvent évoluer. C'est quand même heureux. Mais je ne vous suis pas, ni Florence Colombani, ni Antoine Guillot, sur cette fin qui serait claire.
Non, sur la question un peu idéologique, entre guillemets. Au départ, je trouve qu'il y a cet écueil parce que, en fait, toutes les institutions sont convoquées dans le premier quart d'heure pour nous expliquer qu'en effet, c'est quand même le combat d'un personnage contre l'Amérique blanche d'aujourd'hui. Donc, il y a le curé, la police, les notables.
Non, mais c'est drôle, la scène avec le curé, déjà.
Non, mais je trouve ça très drôle. Mais c'est vrai qu'on peut craindre un peu le côté balisé catalogue de ce point de vue-là. Et très politique, enfin, avec une sorte d'enjeu politique. Je trouve que ça, on le perd, en fait. Moi, ça me dérange plus. Au bout d'un moment, le côté satire de l'Amérique white trash, c'est finalement pas fondamental. Et je trouve justement que cette fin qui reste en suspens est assez représentative du film dans le sens où il a pas choisi quoi. Il a fait plein de trucs mais il savait pas ce qu'il préférait dans son film, donc il a un peu tout fait, tout mélangé et pourquoi pas. Mais
bon,
voilà.
C'est plutôt généreux si on le voit le verre à moitié plein.
Ah oui, non, mais moi je encore
n'est pas
une
le cas
fois,
de Florence.
Hein, plutôt,
Antoine, pour terminer,
le film va rafler tous les Oscars.
Vous croyez vraiment
tout ce qu'on... Ah oui, c'est il coche toutes les cases, il tombe à pic.
Non, mais il y en a plein d'autres qui cochent les cases chaque année.
C'est le film dont Hollywood avait besoin actuellement.
Ah, vous prenez les paris?
Moi je prends les paris.
Il aura quoi comme Oscar?
Au meilleur film.
Il peut avoir meilleur film, meilleure actrice.
Meilleur réalisateur, je suis pas sûr, mais meilleur film, il peut l'avoir. Meilleure actrice, c'est couru. Ouais.
Mm. Enfin, par ailleurs, est-ce qu'on peut arrêter de distribuer dans le rôle de femme, d'homme de 50-60 ans, des femmes de 30 ans? Parce que là, c'est vraiment, pour le coup, dans le genre film que l'Amérique attendait, il y a quand même quelque chose dans les films américains où, à chaque fois qu'il y a un homme qui a 50-60 ans, sa femme a 30 ans. Et ils ont des enfants de 15 ans. Bon, voilà, je dis ça.
En passant, Billboards, les panneaux de la vengeance. Non, ce titre français, pardon. Martin McDonagh, le film est sur les écrans depuis le 17 janvier. Et
avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, Grégoire Difiore, et vous nous allez nous rappeler la question d'hier et nous donner enfin la réponse.
En 2016, qu'a reproché Charlotte Rampling aux personnes déplorant l'absence d'acteurs noirs dans les nominés aux Oscars et appelant au boycott de la cérémonie ? La réponse était un racisme anti-blanc.
Il y a toujours des questions très politiques, hein, Grégoire. Bon, on fait gagner des invitations pour le spectacle Moi Malvolio de Tim Crush, mercredi 31 janvier à 20h30, c'est au Théâtre de Nice et dans le festival Shake Nice. Jeu de mots. Grégoire ?
Quel personnage shakespearien est l'esclave d'un mage, le fils d'une sorcière et dont l'anagramme et dont le nom serait l'anagramme de cannibale ?
Je me demande. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Lundi, 19h, une dispute spectacle vivant en compagnie de Fabienne Pascaud, Marie-Josée Sirache et René Solis. Et c'est Lucille Como qui mènera la dispute non seulement lundi, mais aussi mardi. Je reviendrai peut-être mercredi, allez savoir. À notre affiche lundi soir, ou à votre affiche, Lucille. Quoi maintenant par les Tégestan, Stade de la Bastille, Les Bacchantes de Bernard Sobel, L'Épée de Bois et Dans la peau de Don Quichotte de Samuel Hercule et Mathilde Veillargance au Nouveau Théâtre de Montreuil.